Affinités électives. Une émission proposée par Canal Académie.
Chers amis, bonjour, vous êtes bien à l'écoute de Canal Académie. Nous vous remercions chaleureusement de votre fidélité. En me rendant ce matin dans nos studios, j'ai croisé sur le pont des Arts quantité de Parisiens et de touristes qui avaient le visage tourné vers le ciel. Ils scrutaient le ciel passablement orageux de cet été un petit peu tourmenté pour guetter les signes d'un retour espéré du soleil. Je me disais en regardant ce geste à la fois universel et innocent, presque mécanique, qu'il attestait que malgré le développement de la technique, nous étions toujours d'une part évidemment dépendants de cet astre, mais également fascinés par celui-ci. Et j'avais ces réflexions un brin philosophique, car dans les jours précédents, j'ai lu un ouvrage de Pierre Léna intitulé « Concorde ou l'ombre de la Lune » qui compte une aventure extraordinaire. Il s'agissait d'emmener une série de scientifiques dans cet avion formidable pour suivre ce qui était annoncé comme l'éclipse du siècle il y a un peu plus de 41 ans maintenant, puisque c'était en juin 1973. Et tout cela nous amenait à considérer que si nous tournons simplement les yeux vers le ciel, d'autres déploient des moyens bien plus importants de façon à comprendre les secrets de l'univers, celui de notre atmosphère et donc de cet astre fascinant dont nous dépendons. Pour nous conter cette aventure, nous recevons donc dans nos studios Pierre Léna. Pierre Léna, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes bien sûr astrophysicien, vous avez été professeur à l'université Paris Diderot et vous êtes membre de l'Académie des sciences. Pierre Léna, comment a démarré cette aventure? Quel en était le point de départ?
Alors, comme toute aventure, elle a plusieurs racines. J'étais à l'époque un tout jeune professeur, j'étais chercheur à l'Observatoire de Paris. J'avais déjà fait mon doctorat en utilisant d'ailleurs des avions de la NASA et rentré en France après la fin de ma thèse où j'ai soutenu à la Sorbonne. Je travaillais dans un laboratoire qui explorait à l'Observatoire de Paris le rayonnement infrarouge des astres. À l'époque, une grande inconnue. Aujourd'hui, 40 ans après, nous savons énormément de choses sur la lumière infrarouge émise par les étoiles, les nuages de poussière, etc. Mais à l'époque, c'était pratiquement terra incognita. Dans ce laboratoire, nous avions monter un observatoire sur un avion Caravelle, qui était le biréacteur français commercial à l'époque, et nous commencions des observations du ciel. Et puis est venue l'annonce d'une éclipse totale de soleil. Vous savez que l'éclipse totale de soleil, ça se produit lorsque le disque lunaire cache très exactement pendant quelques minutes, vu du sol terrestre, le disque solaire, donc tout d'un coup il fait nuit, le ciel devient tout noir et on voit jaillir autour du soleil cette couronne solaire qui est extraordinairement faible, moins d'un million de fois moins lumineuse que la surface du soleil. C'est pour ça qu'on ne la voit pas en plein jour. Le voile de l'atmosphère terrestre nous la cache, mais lorsque l'atmosphère n'est plus éclairée lors d'une éclipse totale, alors la couronne apparaît dans toute sa splendeur et mérite beaucoup d'attention de la part des scientifiques, des astrophysiciens, parce qu'elle est le lieu de phénomènes qui conditionnent en partie les relations entre le Soleil et la Terre. On voit aussi, et c'est un autre aspect du spectacle d'une éclipse totale, les étoiles en plein jour, mais tout cela ne dure que quelques instants. Donc voilà, je savais qu'une éclipse allait se produire en 1973, nous avions une certaine maîtrise des techniques aéronautiques, que pouvions-nous faire ?
Prendre l'avion.
Alors, voir une éclipse en avion, ça s'était produit. D'ailleurs, le livre raconte que la première observation d'une éclipse en avion, ça a été au-dessus de Paris, en 1912. Deux jeunes gens qui avaient à peine 20 ans à l'époque, hein, Michel Mailleux et un de ses amis, avaient, à l'aide d'un voisin type militaire, un avion biplan qui est toujours, dont un modèle est toujours au musée de l'air au Bourget, où se trouve d'ailleurs aussi le Concorde 001 que nous allions utiliser. donc était monté simplement au-dessus des nuages. Mais nous, évidemment, nous avions des ambitions plus scientifiques. Et l'idée qui nous a beaucoup séduits, c'est de faire un petit calcul qui montrait très simplement que cette éclipse du 30 juin 1973, qui était appelée l'éclipse du siècle, simplement parce que parmi toutes les éclipses, certaines durent un peu plus longtemps que d'autres, j'ai dit 3 minutes tout à l'heure, celle-ci durerait pratiquement 7 minutes depuis le sol africain à partir duquel elle était observable. C'est une question de configuration des positions respectives de la Lune, de la Terre, du Soleil, de la latitude du lieu, etc. Donc, un petit calcul, je répète, assez facile à faire, montrait que si on volait à un petit peu plus de 2000 km/h, eh bien, on pourrait avoir près de 80 minutes de totalité, comme on dit, c'est-à-dire de Soleil totalement éclipsé, d'observation de la couronne. Mais comment voler à plus de 2000 km/h? Eh bien, la solution est apparue assez évidente. Il fallait obtenir l'emploi du Concorde 001, c'est-à-dire le premier prototype de mise au point de l'avion commercial Concorde, qui lui ne volera qu'en 1976. Donc nous étions en 1972. Était-ce possible d'obtenir ce prototype, de l'équiper d'instruments scientifiques et un an à peine plus tard, de poursuivre l'ombre de la Lune au-dessus de l'Afrique pendant près de 80 minutes pour des observations scientifiques. Voilà la genèse du projet.
Donc vous êtes un jeune scientifique, il vous vient cette idée. Aussitôt, vous savez que le temps est compté car ça se produit un an plus tard. Que faites-vous ?
Il y avait un homme absolument décisif, c'était André Turcat, chef des essais à l'aérospatiale, pilote d'essais lui-même avec des records mondiaux qu'il avait passés. Et donc, il fallait son appui et donc il fallait le convaincre. Donc, je raconte dans le livre une entrevue qui pour moi était tout à fait extraordinaire. Je lui demande un rendez-vous, il ne me connaît évidemment pas. Je me présente à Toulouse, il m'emmène déjeuner, je lui explique l'enjeu, le projet, et il me dit « bonne idée, je vais voir ». Et ça déclenche un peu plus d'un an avant la date fatidique du 30 juin 1973, ça déclenche tout un processus assez complexe qui va mettre en jeu l'étude aéronautique proprement dite, c'est-à-dire la navigation, la possibilité d'avoir des terrains d'accueil, la météo, les déroutements, etc., la quantité de kérosène à emporter, etc. Premier sujet. Second sujet, les transformations techniques de l'avion. Il fallait pouvoir observer le soleil qui, au moment de l'éclipse, était pratiquement au zénith, à la verticale.
Les hublots sont rarement sur le toit des avions.
Ce n'est pas la position des hublots. Donc, il fallait faire des trous. Mais on avait affaire à un avion prototype qui, justement, était en fin de vie. Il avait pratiquement terminé ses essais de prototype. Et en fait, il a été d'ailleurs prolongé pour notre programme et également pour un programme d'études de la stratosphère, éventuellement perturbé par les vols d'une flotte supersonique commerciale. C'est un autre sujet. Mais cette coïncidence heureuse, finalement, a fait que l'étude technique a pu être faite et conclusion positive. Troisième aspect, l'étude scientifique. Qu'est-ce qu'on allait faire maintenant qu'on avait l'avion, hein? Le ferions-nous seuls? Et bien sûr non, nous n'allions pas mobiliser une pareille machine uniquement pour une équipe de 3 ou 4 astronomes de l'Observatoire de Paris. Donc il nous fallait ouvrir, et c'était le rôle du CNRS et non pas le mien, bien sûr, ouvrir le projet à d'autres équipes, britanniques, américaines. Finalement, nous étions 5 équipes scientifiques à bord, une autre équipe française, bien sûr, avec le grand spécialiste des éclipses à l'époque et qui l'est demeuré, et ce que je n'étais pas d'ailleurs, Serge Kouchmi de l'Institut d'astrophysique de Paris, qui est toujours très actif, qui a écrit des livres magnifiques sur les éclipses, et concevoir le programme scientifique qui utiliserait au mieux les vertus de ce vol supersonique, à savoir 80 minutes de totalité, c'est ce qu'on pouvait espérer dans le meilleur des cas, à savoir une altitude de 17 000 mètres, bien au-dessus des nuages, bien au-dessus de la vapeur d'eau atmosphérique, nous donnant donc accès au rayonnement infrarouge, exploiter aussi les conditions particulières de vol de l'avion, et la possibilité de voir se ralentir le moment où l'ombre de la Lune aborde la chromosphère solaire, une région particulièrement intéressante. Voilà. Et puis, il fallait finalement résoudre la question politique. Est-ce que le gouvernement français acceptait de financer l'opération, en sachant que l'aérospatiale, qui voyait une magnifique occasion de mise en valeur à la fois de l'avion, des talents de ses pilotes, à un moment où justement les enjeux commerciaux de l'avenir de Concorde étaient posés.
Loin d'être résolu.
Pardon ?
Il n'était pas encore résolu du tout.
Il n'était pas résolu. Mais on était vraiment tout au début, là, vous voyez, il y avait des grands projets de navigation sur toutes les zones aériennes du globe. Bon, donc finalement, un homme qui a été également décisif aux côtés d'André Turcat et de son patron, Henri Ziegler, qui était le patron de l'aérospatiale, qui s'est enthousiasmé tout de suite et qui a dit qu'il prendra à sa charge tout ce qui concernait l'avion. Les vols d'essai, parce qu'il fallait faire des vols d'essai, bien entendu, les transformations techniques de l'avion, les trous dont vous parliez tout à l'heure, hein. L'équipage, enfin, tout cela a été très généreusement pris en charge par l'aérospatiale, qui m'a fait, si je puis dire, une confiance extraordinaire. J'avais à peine 35 ans, hein, vous voyez, donc c'était tout à fait étonnant. Et puis, par ailleurs, il fallait que le gouvernement décide des moyens. Le Centre national d'études spatiales, il n'y avait pas de ministère de la Recherche à l'époque, donc c'était la délégation générale à la recherche scientifique et technique, qui était dirigée par Pierre Aigrin, membre de l'Académie des sciences, qui m'a reçu 10 minutes et qui m'a dit « j'y vais ». Oui, bon, encore un exemple d'extraordinaire décision.
C'est l'un des aspects qui frappe le plus en lisant votre ouvrage, c'est qu'on a le sentiment d'un monde qui est régi d'une part par les rapports humains, d'autre part par la passion, par la prise de risque aussi, et une extraordinaire souplesse. Serait toujours possible aujourd'hui ce type d'entreprise ?
J'ai écrit ce livre pour deux raisons. La première, c'est que j'ai réalisé que la vie passait. Je n'avais pas eu le temps de m'en apercevoir vraiment, tant j'ai été occupé dans mes activités variées. Et que très vite, les acteurs de cette belle aventure allaient disparaître aussi, moi y compris. Henri Perrier, d'ailleurs, a disparu avant que je puisse écrire le livre. Donc, après avoir monté une scénographie que nous avons installée au musée du Bourget, au pied de l'avion pour le 40e anniversaire du vol, donc l'année dernière, une belle scénographie, j'invite nos auditeurs à aller faire un tour au Bourget avec leurs enfants, leurs petits-enfants, leurs arrière-petits-enfants, de leur montrer l'avion et le récit qui est fait de ce vol au pied de l'avion, et rentrer dans l'avion, voir les trous qui sont présentés, les expériences qui étaient faites à bord. Donc c'était la première raison, c'est livrer le récit de cette histoire avec les acteurs, et dans le livre il y a des témoignages de plusieurs de ces acteurs qui ont navigué avec nous pendant ces 80 ou 74 précisément minutes de totalité, puisque nous avons eu un peu de vent contraire. Voilà, première raison. Et puis seconde raison, c'est celle que vous évoquez, c'est de manifester de ce qu'on pouvait faire à l'époque. La recherche n'était pas organisée comme elle l'est aujourd'hui. Je n'ai pas de nostalgie, parce que l'organisation plus industrielle, plus structurée, plus administrative parfois, plus tatillonne de la recherche aujourd'hui a des avantages. Elle permet de faire des très grands projets, comme le Grand Télescope européen, auquel j'ai beaucoup contribué. Mais elle a aussi l'inconvénient de, pardonnez-moi le mot, caporaliser un petit peu les jeunes chercheurs et de ne pas leur laisser sans doute l'espace d'initiative et donc de créativité qui se concilie mal avec une recherche trop programmée, trop visant des résultats rapides, des publications rapides, nécessaires d'ailleurs pour leur carrière. Donc il m'a semblé intéressant dans ce livre de témoigner d'une autre époque qui reviendra peut-être sous d'autres formes, mais que je souhaite, parce que l'important dans la recherche, c'est de libérer la créativité, et on est créatif jeune. Et l'organisation qui ne laisse une place de responsabilité qu'au-delà de 40 ans en France, aujourd'hui, est vraiment très préoccupante. Donc il m'a semblé qu'il y avait aussi un motif d'actualité plus politique, si je puis dire, à témoigner, sans, je n'ai pas une thèse particulière que je défende et argumente dans ce livre, mais voilà, c'était un témoignage.
Oui, mais les faits parlent d'eux-mêmes, ils viennent étayer ce que vous dites de façon plus formelle. Ce qui est frappant, c'est qu'on voit que même pour la constitution de l'équipe, on sent que c'est vraiment une aventure humaine où les gens se connaissent, se font confiance, on constitue l'équipe en consultant presque son propre annuaire, en se souvenant des expériences qu'on a pu avoir les uns avec les autres. On a presque, vous me pardonnez dans l'expression, l'impression d'une bande d'amis partageant la même passion, décidant de réunir leurs moyens, intellectuels bien sûr, mais aussi financiers, pour arriver à un objectif commun.
C'est toujours vrai aujourd'hui. C'était vrai, bien sûr, simplement l'échelle a changé. Quand on construit un instrument pour un satellite, la bande d'amis, elle va être répartie sur toute l'Europe, quelquefois au-delà de l'Europe, des Chinois, des Américains, des Brésiliens, des Russes. Et ceci parce que le coût du projet va être au-delà des capacités d'un laboratoire, à cause de sa complexité essentiellement, à cause des instruments, des détecteurs, des ordinateurs, des logiciels, etc., qu'on met dedans. Donc je ne crois pas que cet esprit-là soit mort, parce que s'il était mort, il n'y aurait plus de recherche. Hein, cet élan collectif est absolument vital dans la recherche. Donc voilà, bien sûr, le fait qu'on était presque en famille, comme vous le rappelez ici, était sympathique, hein, mais c'est toujours présent, ça.
Quels étaient les enjeux, précisément, de ce vol ?
Alors, d'abord, il y avait un enjeu à la limite de réussite technique, c'est-à-dire être à un rendez-vous fixé en un point de l'Afrique à la seconde près. Oui. En fait, nous avions demandé 15 secondes, donc une fourchette plus large que nous laissions à l'équipage. Mais l'équipage a été tellement extraordinaire et André Turca qu'il a fait ce qui n'avait jamais été fait auparavant, c'est-à-dire un rendez-vous à plus de 2000 km/h à la seconde près et au kilomètre près. Enfin, plus précis, au 1000 nautiques près, 1850 mètres.
Oui, parce qu'à Mach 2, c'est certain que les secondes ne sont pas les mêmes.
Les secondes ne sont pas du tout les mêmes. Donc, il fallait d'abord réussir ça, puisque ça conditionnait tout le reste. Ensuite, il fallait tenir la trajectoire, ce n'était pas très difficile. Il fallait donc que les centrales inertie ne tombent pas en panne. Bon, ça fonctionnait normalement. Il fallait avoir un peu de chance du côté de la météo pour ne pas être obligé à un déroutement dû aux orages qui sont fréquents sur le front intertropical à cette saison. Bon, on avait plutôt des indications favorables, donc on a pris un certain risque, mais calculé, si je puis dire, avec un point de retour possible. Et puis ensuite, il fallait que les instruments scientifiques fonctionnent et que nos expériences fonctionnent et donnent le résultat attendu. Alors nous avions choisi 5 expériences très différentes, avec des degrés de difficulté très différents. J'ai évoqué les Britanniques, les Américains, les Français, hein, de façon à ne pas mettre, si j'ose dire, tous nos œufs dans le même panier. Hein. Moi-même, j'avais proposé et réalisé donc un instrument qui était destiné à étudier les poussières qui s'accumulent autour du Soleil, injectées par les comètes qui se vaporisent quand elles arrivent. Pour celles qui arrivent très près du Soleil et qui laissent donc des résidus dans l'atmosphère solaire proche. Ces poussières chauffées par le Soleil émettent un rayonnement infrarouge, et donc c'est ce que nous nous proposions d'étudier. C'était une expérience extrêmement difficile, comme celle de mon collègue britannique qui étudiait la chromosphère. En revanche, d'autres étaient plus classiques, comme celle de l'Institut d'astrophysique, où on prenait des clichés photographiques au travers un hublot transparent dans la lumière visible. Disons, des techniques classiques qui ont d'ailleurs apporté des résultats tout à fait excellents. On s'interrogeait à l'époque sur l'origine du chauffage de la couronne. En quelques milliers de kilomètres, l'atmosphère du Soleil, celle que nous voyons à l'œil nu, qui fait environ 6000 degrés, hein, passe à près d'un million de degrés en montant, si vous voulez. Qu'est-ce qui provoque ce réchauffement brutal de l'atmosphère Soleil ? De l'atmosphère du Soleil et qui caractérise la température donc de la couronne solaire, qui est un gaz très ténu mais très chaud. À l'époque, il y avait un certain nombre d'hypothèses. Il fallait en tester une, qui était la dissipation de l'énergie d'ondes acoustiques. Et les résultats de deux des équipes, l'équipe américaine, l'autre équipe française, sont allés tout à fait dans le sens de ne pas valider cette hypothèse, qui était pourtant assez souvent défendue à l'époque, et donc laisser la place à d'autres sources de chauffage de la couronne. Le problème est compliqué, mais il a beaucoup progressé depuis avec d'autres types d'ondes qui dissipent leur énergie dans la couronne. Voilà. Oui, il y avait un certain nombre de sujets. Toutes les expériences ont fonctionné. Les résultats ont été publiés. Aucune d'entre elles n'a représenté une révolution, mais c'est très rare une expérience qui est une révolution. Non. C'est une pierre qu'on apporte. Et je dirais que ce ne sont pas les résultats scientifiques, pour être tout à fait clair, qui peuvent a posteriori justifier cette aventure. Ils étaient solides, bons, mais c'est vraiment l'extraordinaire performance humaine, aéronautique, unique, et le record finalement d'une éclipse observée 74 minutes, alors que, je le disais tout à l'heure, au sol c'est maximum 7 minutes, et que ce record n'a jamais été battu depuis, et que même plus, aujourd'hui, aucun avion ne pourrait faire ce que nous avons fait.
Oui, car le destin du Concorde a subi quelques avatars. Enfin, malheureusement, ce magnifique avion est désormais cloué au sol. Vous semblez le déplorer, d'ailleurs.
Oui, alors, Concorde a eu un accident tragique. Bon, chaque nouveau modèle d'avion connaît, malheureusement, parfois un accident. Le Caravelle en a eu, les Boeing en ont eu. Bon. Cet accident a été dépassé et par le constructeur et par les compagnies exploitantes françaises et britanniques, puisqu'il a continué son vol. Mais naturellement, c'est un avion qui a été conçu. Je rappelle dans le livre que quelqu'un dont la parole aéronautique pesait lourd, Didier Dora. Didier Dora avait été le créateur de la ligne Toulouse, Dakar, Natal, Buenos Aires, Santiago du Chili.
Ce qui nous ramène à l'aérospatiale, quasiment.
Avec l'extraordinaire aventure de Mermoz, de Guillaumet, de Saint-Exupéry, vol de nuit, enfin ce que tous les Français ont lu. Eh bien, Dora préface en 1969, 4 ans avant notre vol, un livre qui annonce une flotte d'avions supersoniques commerciaux de 1500 appareils en 1990. Il y en a eu 16, les 8 d'Air France, les 8 de BOC. Oui. Donc, avant le choc pétrolier de 1973, la vision du développement des économies, des ressources énergétiques, etc., n'était pas celle, et Concorde avait été conçu dans ce contexte. Il a volé jusque 2003, c'est déjà bien. Beaucoup de ceux qui ont volé à bord ont un souvenir extraordinaire. Bon, c'est une étape de l'histoire de l'aéronautique, à la fois technique et commerciale. Moi, je suis très heureux d'y avoir à la fois un tout petit peu participé, mais surtout d'avoir connu les hommes qui l'ont faite, André Turquin, Henri Perrier, dont je fais le portrait dans le livre, et d'autres.
Lorsque vous parlez, Pierre Léna, vous avez les yeux qui brillent. J'espère que vous n'en prendrez pas ombrage, mais vous avez les yeux qui brillent comme ceux d'un enfant qui accomplit ses rêves d'enfant, justement. On découvre, en lisant votre ouvrage, on se rappelle qu'il y a cette dimension de jeu, non, dans la recherche scientifique. De jeu et de quête, comme celle voilà, d'un enfant qui met en œuvre la poursuite d'un rêve ou d'un objectif qui peut paraître un peu chimérique au départ, non ?
Ben, vous savez, on dit souvent dans la langue populaire que les scientifiques sont de grands enfants. Et je retourne au fond ce qui est souvent dit de manière un petit peu négative, hein, pour dire que les scientifiques ont la chance d'avoir gardé ce qui est la curiosité universelle des enfants. Et que la science vit de... Les hommes et les femmes de science vivent de cette... ce désir très fort qui, en général, est né chez eux dans l'enfance, hein, que l'école n'a pas toujours, d'ailleurs, su faire vivre, hein, et que ceux qui ont pu le garder, eh bien, ils peuvent mettre en œuvre à la fois cette passion de savoir et cet émerveillement qui est le propre, je crois, de l'activité scientifique.
J'en profite pour dire que vous êtes également très actif au sein de l'association La Main à la Pâte.
Alors, ce n'est pas une association, je vous interromps. C'est une action de l'Académie des sciences.
Je pensais que c'était une association abritée, une institution abritée. Donc, c'est une action de l'Académie des sciences et qui vise donc à... Je vous laisse la parole, pour ne plus dire de bêtises.
Oui, donc qui a été lancée il y a près de 20 ans par Georges Charpak, prix Nobel de physique. On en a souvent parlé à votre antenne. Le propos est exactement celui-là, de faire vivre l'émerveillement, la curiosité, le raisonnement chez l'enfant dans nos écoles en France et puis aujourd'hui à l'étranger, bien sûr. Et maintenant, tout le propos est porté par une fondation dont je viens de quitter la présidence, qui a été créée en 92, qui s'appelle la fondation La Main à la Pâte, qui poursuit cette tâche
cruciale.
Cette tâche, au fond, merveilleuse de voir briller les yeux des enfants, comme Charpak l'écrivait lui-même, d'ailleurs.
Vous disiez que nous n'y parvenions pas toujours. Quelle est la situation en France de la recherche, et notamment de l'attrait des carrières, des études scientifiques? C'est un sujet qui revient un peu comme
Écoutez, on a beaucoup parlé de désaffection des études scientifiques. Je crois que c'est pas vraiment exact. Il y a des secteurs qui sont plus en difficulté que d'autres, la physique par exemple. L'astrophysique continue à se porter assez bien, nous avons d'excellents étudiants en doctorat. Ce qui est vrai, c'est que je crois que notre pays, vit un peu sur l'idée qu'avec son élite scientifique, ceux qui construisent Airbus, ceux qui font les TGV, ceux qui les grandes aventures techniques aujourd'hui, qui sont excellents, ceux qui ont les prix Nobel, les médailles Fields en mathématiques, et qu'au fond le pays se satisfait de ça, et qu'il oublie trop que la puissance créative, intellectuelle d'un pays, c'est la chance donnée à l'ensemble de la population. Il ne faut pas oublier qu'un, par exemple, un grand électricien comme Faraday, qui a contribué au XIXe siècle à l'histoire scientifique de la Grande-Bretagne de manière majeure, hein, qui a laissé son nom à une unité électrique, c'était un ouvrier d'origine. La science a été pendant très longtemps un ascenseur social. Et aujourd'hui, nous vivons en France avec l'idée que, bon, on a une élite et ça suffit. Et on se soucie beaucoup trop peu de faire monter l'ensemble de la population française, que tous les élèves qui arrivent en sixième aient une chance d'avoir un avenir scientifique. Et nous avons beaucoup de talents perdus, je crois. Et un des soucis de la Fondation, La Main à la Pâte, c'est justement de débusquer ces talents partout où elle le peut, dans nos banlieues, dans nos campagnes, dans les zones isolées, et d'aider les professeurs pour qu'ils soient capables de discerner l'étincelle dans le visage d'un enfant, de primaire ou au collège, hein, et pour lui ouvrir les voies de la réussite scientifique. C'est très important, ça.
Vous en parlez comme d'un levain plutôt que... C'est-à-dire une vision moins mécaniciste, en quelque sorte.
Il n'y a rien d'automatique dans une vocation. Jamais.
À part susciter l'appétence, que faudrait-il faire?
Eh bien,
on a parlé de l'origine des choses. Créer l'appétence, discerner.
Oui,
et ensuite...
créer l'appétence, bon, c'est l'école primaire, c'est le collège. Ensuite, il faut évidemment structurer les programmes, le lycée, l'université. Bon, c'est un autre sujet, un vaste sujet. Sur lequel on ne va peut-être pas s'engager aujourd'hui. Hein, mais je crois que les scientifiques ont une très grande responsabilité, qu'ils assument d'ailleurs, en particulier dans notre académie, de faire connaître à la jeunesse ces merveilles de la science. Vous voyez, beaucoup de gens, malheureusement, pensent que la science est inaccessible, qu'elle est trop compliquée, que c'est des termes vraiment incompréhensibles et le propos du livre que j'ai écrit sur Concorde, c'est d'essayer de dire, je ne sais pas si vous qui l'avez lu et qui n'êtes peut-être pas scientifique, est-ce que vous avez perçu qu'on peut dire ces choses-là en termes simples et compréhensibles, même s'il s'agit finalement d'investigation sur le monde, sur le soleil, sur sa couronne, sur l'atmosphère de la Terre, qui sont parfois compliquées, mais il n'empêche, on peut les traduire et en faire partager le goût. Enfin, c'était mon ambition.
Je vous confirme que c'est réussi. Je ne suis absolument pas scientifique. Vous l'aviez deviné.
Pas forcément. Non.
Et tout est effectivement parfaitement compréhensible. Ce que l'on comprend également, c'est que des projets comme celui-ci, mais aussi simplement des objets fascinants comme le Concorde, sont peut-être de nature aussi à susciter des vocations. Et de fait, c'est un petit peu induit dans ce que vous disiez, des emblèmes de la capacité des hommes à inventer, à créer des objets fascinants qui catalysent l'attention, qui donnent envie de participer à des épopées. Il y a des relents d'épopée dans ce que vous avez vécu. Vous utilisez des termes à la fois de professionnalisme et de bricolage. Le bricolage, c'était pour dire que l'autonomie, l'esprit d'initiative était permis, mais ça prend des allures d'épopée. Est-ce que finalement, la capacité à faire rêver ne passe pas aussi par ce type d'initiative ?
Oui, vous avez bien perçu le souffle que j'ai essayé de donner à cet ouvrage, dans lequel j'ai aussi été attentif, mais ça coulait de source, hein, à ne pas distinguer science et technique. Oui, parce que cet avion, c'est une formidable réussite technique. Et tout notre projet, ça a été une collaboration intense, quotidienne, entre ingénieurs et scientifiques, proprement dit, astronomes ou autres. Oui. C'est-à-dire que l'objet, l'avion, hein, et puis le but, la couronne solaire, en fait, comme la couverture du livre le manifeste, ils avaient dans cette aventure une relation intime dans lequel ingénieurs et scientifiques, comme dans un orchestre, chacun joue sa partie, technicien, navigateur, météorologue, etc. Chacun dessinateur, chacun avait son rôle.
Oui, on se dit qu'en voyant voler un Concorde, combien de carrières de jeunes enfants décidant de se lancer dans l'aéronautique ? Probablement un nombre invraisemblable, non ?
Ben, nous avons tous, surtout pendant la jeunesse, un besoin de modèle. Hein. Ma génération, je rappelle dans le livre à quel point, en tout cas pour ma génération, l'aventure aéronautique française avait été extraordinaire. On lisait Saint-Exupéry, on pleurait de Mermoz, on admirait les batailles de Guynemer, on vibrait au récit de Guillaume, remontant son descendant, son glacier dans les Andes. Et puis ensuite, la conception de tous ces avions extraordinaires qui ont été Caravelle, Concorde, Airbus. Donc il y a une aventure très propre à la France qui remonte au fond à Clément Ader, hein, et à toutes les années d'avant-guerre dans lesquelles nous sommes très intimes finalement avec l'aéronautique et avec l'avion. Et donc l'histoire n'est pas finie, bien entendu. Les avions de demain, des avions plus silencieux, peut-être un jour fonctionnant à l'hydrogène, les avions électriques, les avions, les drones de toutes espèces, tout ça, et toutes sortes de fenêtres qui s'ouvrent pour la jeunesse. Et je ne vois aucune raison que ce souffle que notre pays a porté pendant plus d'un siècle disparaisse.
Plus globalement, car on sent que vous écrivez pour tout public, bien sûr, mais aussi pour les jeunes.
Oui, il me semblait que les leçons, si je puis employer ce terme, que nous avons dégagé ensemble tout à l'heure, elles doivent être transmises aux jeunes. À mon âge, c'est le genre de choses qu'on a envie de faire, bien sûr, et pas seulement à mes petits-enfants.
Alors, que diriez-vous à ces jeunes tentés par une carrière scientifique ?
N'ayez pas peur. Hein. Vous gagnerez peut-être pas autant d'argent que si vous étiez banquier ou commercial, mais vous vous ferez vraiment plaisir. Vous travaillerez probablement beaucoup, mais vous vous ferez plaisir et vous aurez le sentiment d'avoir empli votre vie de quelque chose qui en vaut vraiment la peine et dans lequel finalement vous vous inscrirez dans une longue aventure humaine. Vous aurez eu des prédécesseurs, vous serez un peu, comme le disait Bernard de Chartres, des nains, parce que nous sommes tous des nains individuellement, mais montés sur les épaules des géants qui vous ont précédés. Voilà, ça vaut la peine. Et je dis ça, je le précise dans le livre, aussi bien aux filles qu'aux garçons. Même si dans notre aventure de 73, il n'y avait à bord de l'avion que des hommes, Suffisamment de femmes ont montré leur courage en avion ou dans l'espace et dans la science pour que le modèle s'adresse autant aux jeunes filles qu'aux jeunes gens.
Merci Pierre-Léna. Je pense que vous venez de faire spontanément la conclusion de notre émission. Je ne vois pas ce que je pourrais ajouter à ces derniers mots, si ce n'est que nous invitons nos auditeurs à se procurer ce livre, à l'offrir notamment aux plus jeunes, car oui, c'est une aventure scientifique, mais aussi une aventure collective qui comblera leur soif non seulement de créer, d'inventer, mais aussi d'agir. Parce que je précise que c'est un livre qui peut plaire aussi à des enfants turbulents, car vous étiez des scientifiques turbulents.
Tout à fait, oui.
Donc le livre est disponible aux éditions Impromptu, la collection c'est Impromptu, édition Le Pommier, par Pierre-Léna, Concorde 001 et L'Ombre de la Lune. Bien entendu, les coordonnées plus complètes se trouveront sur le site internet de Canal Academy. Merci encore Pierre-Léna.
Et merci à vous. Thank you.